Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Louis.
Podcast culturel co-présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème.
Je suis très heureuse d'enregistrer un nouvel épisode de Pépite, notre podcast culturel chez Louis Média, qui est un podcast hebdomadaire, et aujourd'hui au Pop Women Festival à Reims, avec toi Myrion Mal. Merci d'être avec nous.
Merci beaucoup.
Myrion, tu écris des bandes dessinées. Je cite tes deux titres qui sont parus dans la super maison d'édition La Ville Brûle. Adieu triste amour et juste avant, c'est comme ça que je disparais. Ce sont des albums dans lesquels tu t'empares de sujets féministes, comme la santé mentale, les relations hétérosexuelles, l'amitié, que tu traites avec beaucoup de précision et, je trouve, en prenant le temps. Tu illustres aussi des textes avec de d'autres autrices, comme par exemple Les règles qu'a l'aventure avec Élise Thiébaud, qui est, je crois, d'ailleurs au Pop Women ce week-end, ou encore le texte d'Iris Bray Sous nos yeux, une réflexion sur le male gaze. On te suit aussi sur les réseaux sociaux, où tu produis beaucoup de textes et de réflexions féministes, entre autres. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain. J'évoquais en ouverture le champ, on va dire, féministe qui habite beaucoup tes récits, ton regard sur le monde et tes dessins. À quel moment il y a eu peut-être, je ne sais pas, une scène, un moment fondateur qui a placé cette grille de lecture au centre de ta vie ?
Je ne sais pas s'il y a eu un moment, mais je pense qu'assez tôt dans ma vie, déjà premièrement, j'ai grandi avec des parents qui m'ont dit, tu sais, comme t'es une fille, ça va être plus compliqué. Qui m'ont dit ça, bon, pour me préparer, même si maintenant, bon, on pourrait, c'est un peu injuste de grandir avec ce poids-là sur les épaules. Mais je me rappelle de mon père qui me disait, c'est important de que tu sois bonne à l'école pour ne pas dépendre d'un homme. Quand j'avais genre 7 ans. Mais d'un côté, donc, ça arrivait assez tôt. Et puis après, c'est un peu flou. Je me rappelle des espèces de trucs du lycée où voilà, c'est vu comme normal que tu sois bonne en français, normal que tu sois pas bonne en maths, bon, des trucs un peu basiques. Et surtout, je pense que quand j'étais au lycée, j'avais très envie d'être edgy. Et j'étais, du coup, j'étais autoproclamée féministe et communiste. Et j'ai été extrêmement marxiste à 17 ans. Je lisais le manifeste du parti 2 fois par semaine et tout. Je suis toujours anticapitaliste d'ailleurs, donc et toujours féministe. Au début, c'était vraiment un peu un truc pour me démarquer. Même voilà, j'étais en mode j'aime pas l'injustice et tout ça. Bon, j'étais pas très fut-fut quoi. Mais
à une époque où c'était pas très à la mode entre guillemets,
non,
de se déclarer
ça,
comme telle.
Parce que justement, j'avais l'impression que, enfin, c'était pas à la mode et ça créait des. Mais j'étais emo aussi et on était en mode genre ouais, on est vraiment trop, on dérange. Dans un petit collège à Rochefort, Merleau-Ponty représente. C'était pas juste du vent. Je dis ça, je me moque un peu de moi parce que j'étais adolescent. Enfin, je vais pas me moquer des adolescents, mais genre il y a un truc où forcément je pouvais pas. Surtout à l'époque, moi là j'ai 31 ans, donc il y avait pas. J'ai vécu la naissance de Twitter et tout ça, où justement ça m'a beaucoup impacté dans ma. Dans mes réflexions féministes, juste notamment. Mais avant ça, voilà, c'était le CDI de mon lycée. Bref, mais tout ça pour dire que j'étais intéressée par ça. J'étais très intéressée par la politique en général. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a aiguillée vers les textes féministes. Donc vraiment, j'ai eu un truc un peu basique. Je suis arrivée en prépa-lettres. Et là, j'ai lu Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, le premier livre. Et Twitter. Et en fait, Twitter, ça a été super en bonne milléniale. J'ai vraiment fait mon éducation par Twitter parce qu'en fait, d'un seul coup, il y avait énormément de voix des afroféministes, des féministes queer, des féministes décoloniales. Et mine de rien, en fait, t'es une petite ado blanche en prépa lettres. Bon, ben voilà, t'as Simone de Beauvoir et puis c'est tout. Et là, d'un seul coup, j'avais plein d'autres formes de savoir et notamment aussi du savoir qui était plus accessible. Donc, je me suis intéressée à la vulgarisation comme ça. Et puis, tout simplement, en fait, ben, comme je disais, j'étais hyper marxiste à 17-18 ans quand j'étais en prépa. Et en fait, c'est la première fois où j'ai eu ce truc de « Ah, ben le féminisme, c'est une lutte de bourgeois et t'essayes de comprendre pourquoi. » Et en fait, ben non, et là, tu deviens militante. Et donc, je pense que c'est un peu... Voilà, c'est un peu ce cheminement assez basique, mais vraiment, je tiens à remercier pas le Twitter d'aujourd'hui, car nous détestons Elon Musk, mais le Twitter de 2010, 2009, 2010, non, ouais, un truc comme ça, où vraiment, d'un seul coup, bah, c'est ça, il y avait plein de blogs féministes, et notamment, vraiment, de voix différentes de celles qu'on entendait et à la radio ou à la télé, où on n'entendait juste pas, et même dans, voilà... ce que Emmanuel Macron appellerait les bonnes féministes, c'est-à-dire les féministes blanches et mortes.
Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est vraiment l'idée d'un cheminement qui se fait petit à petit. Et là, tu parles beaucoup de la manière dont tu t'es informée, dont tu t'es documentée, dont tu as appris et construit progressivement ton militantisme. Mais toi, ce qui s'ajoute à ça, c'est le fait que tu as eu envie aussi de produire tes propres récits, notamment par le dessin. Et donc, comment, à ce moment-là, le dessin aussi émerge dans ta vie et devient un vrai moyen d'expression qui va devenir le cœur de ta vie?
Moi, j'ai toujours dessiné, depuis toute petite. Et puis même la bande dessinée, c'est arrivé très vite dans ma vie. En tant que lectrice et aussi en tant que... dessinatrice, comme on peut dessiner des BD quand on a 8-9 ans. Mais voilà, je me rappelle dessiner des espèces de BD de Sakura, Cardcaptor, car je regardais le dessin animé, ou de Pokémon. Et puis après ça, j'étais fan de Witch, donc Mini Mag, après Witch Mag, et ça, j'étais à fond. Et dans Witch Mag, bon, déjà, je dessinais les Witch, mais il y avait aussi, il faisait un truc où tu pouvais toi-même dessiner tes Magical Girls. C'était genre Magic, et donc ça, j'avais un classeur. Et puis à 10 ans, j'ai rencontré les shoujo manga. Et donc, genre, c'était jamais des projets. Je veux pas faire comme si j'étais un espèce de mini génie de la BD qui faisait des livres. Voilà, c'était 3-4 pages. Mais ouais, c'était un moyen d'expression.
C'est une passion qui prend vraiment l'origine dans l'enfance aussi.
Exact. Et en effet, j'ai toujours très petite, j'ai été exposée à la bande dessinée par mes parents, par juste j'aime lire et Tom Tom et Nana, enfin des choses bon. Et après ça, moi, quand j'étais au lycée, donc je voulais être comédienne de théâtre. Et j'ai fait donc prépa lettres option théâtre. Et quand j'étais dans cette prépa, donc c'était des études théâtrales, donc c'est-à-dire c'est des études dramaturgiques, c'est pas du jeu, mais on avait des stages de jeu. Et là, d'un seul coup, j'étais comme ah, je suis la bonne actrice de ma petite ville de province, mais d'un seul coup, je suis avec tous les bons acteurs de leur ville de province. Puis je suis plus si bonne que ça. Puis aussi, je stresse tellement que mes lentilles pop de mes yeux parce que j'oublie de cligner. Donc, est-ce que c'est vraiment ça la voie que je veux choisir?
Parce que tu voulais devenir comédienne à ce moment-là.
Je voulais devenir comédienne. Le deal avec mes parents, c'est tu fais une prépa lettres, une troisième année de licence et tu peux tenter le cours Florent. Sauf que donc quand je lis aussi beaucoup de blogs BD à ce moment-là et je commence à faire des petites BD sur les gens de ma classe, sur mes profs, enfin des petits trucs que je fais vraiment, c'est des bouts de papier que je fais passer à mes amis. Et puis j'ouvre un blog parce que j'en lis plein et c'est vraiment c'est un truc en mode je raconte ah on est allé voir une pièce de Rodrigo Garcia au TNT à Toulouse et voilà ce que on vit et personne peut comprendre à part les gens qui sont dans ma classe mais bon bref
à part les théâtreux
oui c'est ça exactement mais du coup ça commence à devenir un truc très présent et puis je rencontre un ami qui fait de la BD et je me dis ah mais en fait c'est ça j'aime vraiment ça c'est vraiment facile et encore une fois je le dis pas dans un sens inné mais c'est juste un langage qui me convenait et où j'arrivais bien à raconter des choses et en fait donc dans ce moment-là après j'ai fait une L3 d'études théâtrales mais je savais déjà que je voulais partir en BD j'ai un peu abandonné le truc d'être comédienne et donc c'est ça j'ai eu un peu ce switch où je me suis dit ah mais je dessine tout le temps je fais de la BD je fais des petites BD tous les jours j'ai envie de continuer ça c'est une chose que j'aime et à partir du moment où je me suis dit je pourrais faire ça c'était un peu une évidence, et encore une fois, je veux pas le dire pour faire comme si c'était une histoire magique, ça m'est tombé comme ça, genre, ah, je dois faire de la BD, mais c'est... Au début, je voulais être chanteuse, bien sûr, après, je voulais être maîtresse d'école, après, je voulais être avocate, après, je voulais être poéticienne, Après, je voulais être genre... je voulais travailler à Taratata. Après, je voulais encore être chanteuse. Après, je voulais être comédienne. Et je pense qu'il y a eu toujours aussi un balancement entre l'artistique et les trucs plus intellectuels parce que, voilà, des parents qui croient beaucoup à la méritocratie, etc., de s'élever par les études. Mais une fois que j'ai trouvé la bande dessinée, c'était très évident que c'était ça que j'allais faire et j'en suis très reconnaissante, en fait.
Est-ce que tu avais l'impression d'avoir trouvé une place à ce moment-là? De trouver ta place?
Je pense pas que j'avais l'impression d'avoir trouvé ma place. Par contre, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé la façon qui me convenait le plus pour raconter des choses. Et ça, c'était très précieux, quand même. Et aussi beaucoup de joie. Genre vraiment beaucoup, beaucoup de joie.
Raconter des histoires, tu disais, tu as trouvé la manière de le faire. Je dirais aussi de raconter les émotions, puisque c'est vraiment ce qui est au cœur de tes bandes dessinées. Donc pour parler un petit peu de ton premier album, C'est comme ça que je disparais, dans lequel tu racontes l'histoire de Clara, qui traverse un épisode dépressif, qui se coupe un peu de son entourage, qui a du mal à discuter, qui a du mal à échanger. Ses larmes et son corps aussi. Tu laisses beaucoup de place dans tes dessins à son corps qui a du mal à bouger, qui a du mal à avancer. C'est un petit peu ce qu'on traverse quand on traverse ce type d'épisode. Et donc du coup, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de climax narratif dans ta bande dessinée, mais qu'il y a plus ce travail d'accompagnement de l'émotion. Est-ce que c'est ça que tu cherchais en écrivant ce premier album ?
Oui, vraiment, j'avais envie de un peu démêler, disséquer toutes ces émotions. En fait, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte assez tôt en regardant... je vais être très honnête, en regardant Orange is the New Black, qui est, enfin, je dis ça comme si c'était une chose honteuse, pas du tout. Mais en fait, j'étais hyper fan de Orange is the New Black, qui est donc une série Netflix sur la vie d'une prison pour femmes. Et au début, c'est une prison de sécurité moyenne, et donc c'est super intéressant. On voit les dynamiques raciales, sociales, les dynamiques de pouvoir aussi entre les gardes, entre les prisonnières et tout. Et d'un seul coup, ils sont en mode, ouais, on va partir d'un truc un peu épique avec des révoltes, des meurtres. Et d'un seul coup, ça m'intéressait moins parce que je trouvais que c'était moins bien écrit aussi. Mais il y avait aussi un truc où j'aime. Ça m'intéresse beaucoup tout ce qui est banal, tout ce qui est quotidien, tout ce qui est médian, dans ce qu'on voit comme moyen. En fait, il y a beaucoup de choses, il y a pléthore d'émotions. Je pense qu'il y a eu un truc où je me suis quand même cherchée dans ce que je voulais écrire. Comme je disais, j'ai toujours lu beaucoup de BD, je pense que j'ai été très inspirée à plein d'endroits aussi par la bande dessinée, mais il y a eu aussi un truc de rencontrer certains films, certains réalisateurs, certaines réalisatrices, et de comprendre en fait ce que j'aimais. Ce que je dis souvent, c'est que j'aime les films où c'est juste des gens qui parlent et où il ne se passe pas grand-chose. Et c'est un peu ça, mes bandes dessinées. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Et donc, par rapport à ça, j'avais vraiment envie de parler de la dépression, d'une dépression, parce que encore une fois, la dépression, c'est très social, c'est un ancrage sociologique très fort. Là, c'est une jeune femme qui fait une dépression qui est la suite de violences sexuelles subies des années auparavant. Et il y a quelque chose où c'est très ancré dans un certain contexte, parce qu'aussi, je pense que plus une histoire est spécifique, plus elle va parler à beaucoup de gens. Genre, je pense que c'est le faire un truc très généraliste, en fait, ça va pas forcément marcher parce que les émotions, elles vont avoir l'air fausses. Alors que là, j'avais vraiment envie, je me suis dit, bon, je crée ce personnage, voilà son ancrage, son contexte, et j'ai envie de raconter comment elle vit cette dépression. Et en fait, il se passe rien. C'est trop drôle parce qu'il y a des critiques, deviner leur genre. Indice, ça commence par homme. Ils disent, il y en a eu deux, je crois, qui disaient en mode, ça manque de péripéties. J'étais en mode, désolée mon ami, je suis vraiment navrée que, franchement, la dépression, j'avoue, c'est pas hyper rock'n'roll, quoi, ouais. Mais moi, justement, en fait, il y avait aussi ce truc où, quand j'ai fait ça, c'est vraiment né d'une discussion avec une amie, où on était en mode, c'est trop relou, ce truc de la dépression, où c'est soit, désolée, mais donc, soit ça se termine par un suicide, soit c'est, ah, j'ai pris une douche, et maintenant, je vis bien, je vais prendre une marche, et tout va être super.
Oui, c'est forcément optimiste, il y a forcément une sortie de l'état.
Exact,
en fait.
Et surtout qui vient de toi. Et donc là, j'avais aussi envie d'en parler. Enfin, quand je dis que je crois pas que ça vient que de soi, c'est pas en mode on n'y peut rien, on est doomed. Mais il y a un truc où le système joue contre nous le plus souvent. Et j'avais aussi envie de montrer comment c'était compliqué de naviguer ce système. Et quelque chose qui est quand même présent dans mes livres, c'est le groupe. Moi, je mets beaucoup d'espoir dans le groupe. C'est là où je mets vraiment tout mon espoir, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse aussi de regarder.
Dans ces deux albums, d'ailleurs.
Non, mais ouais, et là, dans le prochain, c'est encore plus ça.
Le groupe est un peu comme un peu une porte de sortie.
Oui, pour moi, c'est super important. Mais je trouve que c'est chouette de zoomer sur un personnage, un petit épisode de sa vie et d'essayer de décortiquer tout ça. Et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et pour moi, ça sert à rien d'infliger un autre trauma à la personne qui potentiellement est concernée et lit ça. Vraiment, mon point de départ du livre, ce que je voulais faire, c'est que ce soit une lecture qui ne soit pas douloureuse pour les personnes qui avaient vécu ça. Et donc, c'était vraiment, je me suis dit, si des gens passent à côté, par exemple, certains critiques de BD qui pourraient trouver qu'il n'y ait pas assez de péripéties, c'est pas très grave. Et peut-être que c'est raté. Genre, je veux dire, il y a probablement des gens qui l'ont lu et qui ont été blessés et j'en suis absolument désolée. Mais en tout cas, c'était ça ma volonté de départ. C'était vraiment que ce soit une lecture presque douce, en fait, mais en tout cas qui ne soit pas violente à recevoir.
Il y a plein de fils à tirer dans ce que tu dis. Je rebondis, c'est intéressant cette histoire de une narration, il faudrait forcément qu'il se passe des choses. C'est vrai que c'est aussi une construction très occidentale qu'on a de la fiction, qui passe par des conflits, des obstacles, des retournements de situation. Je veux dire, c'est très intéressant en termes de scénario, mais il y a aussi d'autres manières de raconter les histoires. C'est vraiment ce que tu fais. Et je rebondis à une interview que j'avais trouvée passionnante de Céline Sciamma dans La Déferlante, où elle dit exactement ça aussi. J'en peux plus, en fait, de ces lectures de scénarios dans lesquels il faut forcément qu'il y ait un conflit. On peut raconter des histoires en dehors des conflits. Il peut se passer des choses sans forcément qu'il y ait confrontation. Voilà, c'est aussi une autre manière de traverser les états d'âme, les états de corps, etc. Et je trouve que c'est exactement ce que tu racontes là.
Ben merci, c'est une comparaison très flatteuse.
Et tu ouvres ton album, C'est comme ça que je disparais, avec des mots de Sylvia Plath, qui est une autrice aussi très importante pour moi. Je sais qu'elle l'est aussi pour toi. Je la cite, « Un mauvais rêve, pour celui qui se trouve sous la cloche de verre, vide et figé comme un bébé mort, le monde lui-même n'est qu'un mauvais rêve. Un mauvais rêve, je me souvenais de tout. » Pourquoi c'était important de commencer avec la voix, la présence de Sylvia Plath en début de ce texte?
Peut-être que ça vient aussi d'une frustration de... Je sais pas s'il y a d'autres femmes qui font de l'art et qui racontent des histoires dans la salle, mais un truc super intéressant quand t'es une femme et que tu racontes des histoires, c'est qu'on pense que tu ne peux pas. Et que donc tout ce que tu fais, c'est d'autobiographie ou du témoignage. Et quand on t'invite à parler, habituellement, c'est beaucoup pour dire... Et donc... Être une femme dans la bande dessinée, c'est quoi? Et moi, c'est très rare qu'on m'invite, en fait, pour parler de mes inspirations, etc., alors qu'en fait, j'en ai plein. Et je pense qu'il y a aussi un peu cette frustration et qui fait que je parle souvent, même dans mes livres à la fin, je dis ce que j'ai écouté, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, bref. C'est hyper important pour moi parce que je trouve que les œuvres sont hyper nourrissantes, sont tout pour moi, tout est lié, et c'est important de rappeler qu'on existe dans une sorte de continuum. On racontera jamais une histoire en premier.
D'ailleurs, c'est pas toujours conscient, les références, c'est ça qui est intéressant.
Non, c'est ça.
Parfois aussi, ça vient se glisser, c'est d'autres qui disent « Ah, ça m'a fait penser à... » Évidemment qu'on est pétri de tout ce qu'on a vu, lu, entendu.
Bien sûr.
Toi, en tant qu'artiste.
Et moi, par exemple, mon rêve, très sincère, c'est un jour on m'invite, on me dit voilà, t'as 2 heures, je suis sur une scène et je fais juste parler de toutes les choses que j'ai aimées dernièrement.
Alors parle-nous...
Oh, ce film, il est super.
Alors parle-nous un peu de Sylvia Plath,
oui,
qui a donc écrit La cloche de détresse, qui est un très beau texte. Il y a passé peu de textes d'elle puisqu'elle est morte jeune, donc elle a écrit des recueils de poésie qui sont absolument sublimes, c'est des fulgurances. Ariel, Arbre d'hiver, vraiment je vous conseille absolument. Et La cloche de détresse, c'est un texte plus narratif que tu cites au début de ce texte et qui parle de la dépression.
C'est ça. Et en fait, la cloche de détresse, moi, quand je l'ai lue, ça a été... Je me rappelle très bien avoir fini de le lire et être un peu sonnée pendant 20 minutes, mais vraiment être là et pas bouger parce que il y a vraiment ce truc où ça raconte donc une dépression, en fait, et notamment une dépression qui naît quand même suite à une agression sexuelle, qui est dite à demi-mot. Premièrement, qu'il y a un truc qui n'est jamais dit dans les résumés et tout ça, parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui passent un peu à côté, parce que notre imaginaire collectif, en fait, il est régi par les hommes, qu'on le veuille ou non, et donc souvent, en fait, tout ce qui est l'imaginaire collectif qui appartient à l'expérience vécue du groupe des femmes peut passer inaperçu. Donc là, pourtant, c'est très clair pour moi dans ce texte, enfin, pas juste pour moi. C'est un texte qui est quand même ancien, et je l'ai lu et je me suis dit, waouh, les choses n'ont pas tant changé. Oui, bien sûr, les choses ont changé, mais les choses n'ont pas vraiment changé, et il y a quelque chose d'extrêmement bouleversant et de terrible, en fait, et en même temps une sorte de compréhension inter-époque qui a été assez compliquée à réaliser, je pense. Ça me fait penser aussi à, par exemple, Thelma et Louise, qui est un film de Ridley Scott, mais c'est plutôt le film de Kali Khoury, qui est la scénariste, et qui a un peu chapeauté tout ça. Et en gros, dans Thelma et Louise, à un moment, le truc de base, c'est pour échapper à un viol, elle tue le wannabe violeur. Et en fait, à un moment, Thelma dit « Ah, je suis désolée, si on n'avait pas fait ça, si j'avais été plus intelligente, on aurait pu éviter tout ça, c'est-à-dire la fuite et fuir la police, etc. » Et Louise dit non, parce que ce que tu aurais vécu de l'autre côté, ça aurait été pire. Et en fait, j'ai déjà vu ce film au cinéma avec plein de femmes, et toutes les femmes comprennent ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui aurait été pire? C'est le viol, vivre avec le viol. Bref, et les femmes sont en pleurs, enfin beaucoup en tout cas, et beaucoup d'hommes passent à côté. Et je pense qu'il y a un truc de toutes ces violences-là qui existent, qui sont même pas vues alors qu'elles sont dites. J'essaye de faire une comparaison avec La cloche de détresse, mais c'est la même chose où je me suis dit, en fait, c'est enrageant. Et désespérant et triste. Et donc, ce livre-là, c'est plus l'aspect triste, je pense.
C'est aussi un texte où il y a beaucoup d'humour.
Oui, c'est hyper ironique.
Elle se fout vraiment de la gueule de beaucoup de gens. Parce qu'elle évolue dans un milieu social plutôt culturel, assez élitiste, etc., dans le milieu de la poésie. Et elle est très moqueuse par rapport à beaucoup de choses qu'elle voit. Et il y a une image que je trouve très forte dans le texte où elle dit que le personnage, la jeune femme, l'héroïne, est obsédée par les miroirs. C'est un truc qui m'était resté. Elle dit comme si c'était une manière de vérifier qu'elle existait vraiment. Je trouve qu'il y a tout, en fait, dans cette image. Le rapport à l'image, le rapport, évidemment, à la représentation de toi en tant que femme, l'obsession de se regarder dans la glace et en même temps, à l'intérieur de ça, l'idée de potentiellement pouvoir disparaître.
Oui, et puis en plus, il y a ce truc que c'est... elle veut être écrivaine et elle se retrouve à faire un stage dans un magazine de beauté, enfin genre...
D'ailleurs, dans tes textes aussi, dans tes bandes dessinées, le milieu de l'édition, de l'écriture est très présent. Tu ancres tes personnages dans ce milieu social-là parce que c'est un milieu que tu connais, mais est-ce que c'est aussi une manière pour toi de le critiquer, de le raconter aussi avec distance et de le partager au grand public?
Oui et non, dans le sens que, en fait, comme ce qui m'intéresse, moi, c'est de parler des émotions, des dynamiques de groupe, des dynamiques sociales. Le travail, c'est développer ces émotions, développer ces histoires, et j'ai pas besoin de trop rechercher sur le contexte, parce que je le connais, en effet, c'est le mien. Et donc, au début, j'avais fait ça parce que j'ai habité 7 ans à Montréal, et le milieu de la poésie est très mêlé à celui de la BD, je sais pas pourquoi, en tout cas, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la poésie. Je me suis juste dit, ah, je vais faire ça là. Et après, tout le temps, tout le monde est en mode, donc ce témoignage, votre autobiographie, nanana. Et ça m'a saoulée. Il y a même carrément un journaliste.
Forcément du principe que c'était ton histoire.
Oui, bien sûr. Il y a même un journaliste qui était en mode, je sentais la question, elle était là, elle était sur ses lèvres. Et il essayait de la poser, mais je répondais pas. Et à un moment, ça a échappé. Il m'a dit, mais est-ce que vous vous êtes fait violer? Et j'étais en mode, genre, waouh, quel délire. Et donc après, je me suis dit, bah, trop drôle, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire que l'héroïne de ma prochaine BD, ça va être une autrice de BD. Et en plus, elle a déménagé à Montréal. Et pareil, bingo. Donc, c'est votre histoire. Vous êtes, alors que pas du tout. Je suis pas du tout partie à Montréal pour suivre un mec. Enfin, genre, non, mais, et donc, et c'est un peu drôle. Et là, ma prochaine héroïne, je me suis dit, allez. Et elle est tatoueuse, car je fais aussi du tatouage. Je me suis dit comme ça. Je leur donne un peu.
Voilà.
Allez-y. Allez-y. Faites-vous plaisir. Le truc de base, c'est vraiment juste de pouvoir parler de milieux que je connais parce que c'est des dynamiques de groupes que je connais. Et donc, je peux en parler assez facilement.
Donc là, t'évoquais rapidement ton album Adieu Triste Amour, que t'as publié après C'est comme ça que je disparais. Donc là, on suit Cléo, c'est la jeune femme dont tu viens de parler, qui s'est installée à Montréal, et qui est en couple avec un certain Charles. Et en fait, elle va comprendre au début du récit que ce jeune garçon avec qui elle est a harcelé une femme auparavant, qu'elle rencontre un peu par hasard, un peu sur un coup du destin. Et donc, pendant toute la bande dessinée, elle s'interroge sur ce qui s'est passé vraiment. Elle veut comprendre... ce que son mec lui cache. Et donc, elle va mener son enquête, elle va réfléchir et puis elle va le quitter, quoi. Ça, c'est le fil narratif de ta bande dessinée. Ce personnage de Charles, c'est qui, en fait? C'est quoi ce type? Il est assez banal avec son écharpe, avec sa barbe mal rasée.
Ben c'est ça, il est très banal. C'est drôle, quand j'ai fait le livre, mes éditeurs, que ce soit mes éditeurs en France ou mon éditeur québécois, tout le monde me disait oh, « Est-ce que c'est machin? Ah lui, Charles, c'est machin, non? Ah machin !» Et j'étais comme ben, un peu tous, en fait. C'est vraiment parce que je voulais pas faire un truc de « c'est le gros méchant ». Justement, c'est un truc très banal, je le disais tout à l'heure. Moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment, la banalité. Il est un peu charmant, mais en même temps, c'est pas non plus le plus gros beau gosse du monde. Il est un peu désagréable, mais aussi il est mignon. Et,
il a compris ce qu'il a fait, mais pas vraiment, un
c'est
petit
ça.
Peu
en
à
fait,
moitié.
En fait, c'est juste quelqu'un qui enfin, tout le truc de la première partie du livre, en tout cas, c'est il est très conscient de la position sociale dans laquelle il est, qui fait qu'il a le pouvoir, et il en joue. C'est aussi pour ça que j'ai choisi bon, c'est pas le harcèlement, c'est pas pour dire c'est pas grave, au contraire, je voulais montrer aussi comment quelque chose de pas grave peut détruire la vie de quelqu'un et infliger des répercussions violentes. c'est pas un monstre, c'est quelqu'un de profondément courant et commun. Et en fait, quand j'ai fait ce livre, c'est drôle parce qu'on m'a prévenu, on m'a dit ah, attention, il y a des femmes qui risquent de se sentir visées. Et en fait, non, pas du tout. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont dit ah oui, j'ai MDR, j'ai rencontré ce mec. Et je suis contente de ça. Enfin, non, pas qu'elle a rencontré ce mec, mais je suis contente de. Parce que c'est ce que je voulais pas. C'est pas un. Enfin, c'est ça, on m'a dit ah, attention, on va penser que tu détestes les hommes. Mais surtout, c'est pas un monstre sanguinaire, c'est pas quelqu'un qui a aucun bon côté. Justement, je voulais montrer qu'il avait des côtés charmants, que c'était pas le pire mec du monde. En fait, c'est ça aussi la société, c'est les dynamiques de pouvoir du monde dans lequel on évolue et de choisir, quand on est en haut de l'échelle, est-ce qu'on en profite ou pas.
Et dans ces dynamiques justement de pouvoir, t'as vraiment la question du groupe que t'as déjà un peu évoqué au début de cette conversation, qui est au cœur d'ailleurs de tes deux albums. Ça fait aussi partie, je trouve, des échos qu'on peut faire entre les deux récits. Ce groupe, il peut être quand même destructeur dans la manière dont il ne protège pas l'héroïne, dont il fait pression. Et ton personnage, justement, il va vers un groupe plus égalitaire. D'ailleurs, dans tes deux récits, ce sont des jeunes femmes qui ont besoin de partir, soit pour dire, soit pour révéler, soit pour se construire une nouvelle vie. Donc, il y a l'idée du départ. D'ailleurs, dans un espace hors de la ville, je me suis aussi dit ça. Et là, on va rencontrer effectivement un nouveau groupe, comme tu dis, plus égalitaire. Alors, ce serait quoi un groupe égalitaire? Ça existe?
Ben, j'espère. En tout cas, c'est un groupe qui travaille parce que, en effet, c'est pas en mode waouh, t'arrives dans un endroit et tout est parfait et tout est merveilleux. Je pense que l'égalité, ça demande beaucoup de travail. Dit comme ça, on dirait que c'est pénible. Je pense pas, justement. Je pense que c'est du travail, mais c'est du travail facile. C'est juste un travail qui demande à se remettre tout le temps en question, à remettre tout le temps en question, justement, les rapports de pouvoir. J'ai une amie qui dit tout le temps, pour comprendre les gens, il suffit juste de comprendre les rapports de pouvoir. Elle est un peu intense sur ça. Mais en même temps, c'est un peu vrai. Genre, c'est un peu terrible ce que je veux dire, mais c'est très facile de voir comment manipuler une personne. C'est très facile de voir quel fil tirer pour blesser quelqu'un. Et en fait, c'est un choix que tu fais de le faire ou de pas le faire. Et je pense que dans un groupe égalitaire, justement, tu questionnes tous ces rapports de pouvoir-là. Et récemment, j'ai lu un livre qui m'a absolument bouleversée. Et c'était la première fois qu'un essai venait me remuer autant à un niveau émotionnel. C'est « Faire justice » de Elzadek Marceau. Elle parle de gestion de conflits et de justice transformatrice. Et donc, elle parle aussi de la justice réparative dedans, etc. Et notamment, elle, c'est une lesbienne qui fait notamment de la gestion dans les groupes féministes et queer. Donc, vraiment, elle parle dans nos milieux, comment faire pour gérer ces conflits-là et qu'est-ce qui ne marche pas aussi. Et en fait, c'est dur aussi de lire ça parce que, en fait, abandonner la justice punitive, notamment quand on est une femme, notamment, ça veut dire, toutes les violences sexistes, sexuelles, etc., qu'on a pu vivre, il faut abandonner. Tu tends vers un idéal où il n'y a plus ces trucs de, ils vont être punis, mais parce qu'en fait, tu vas aussi vers quelque chose de, quand tu regardes tout ce truc de justice transformatrice, c'est aussi comment est-ce que le groupe est responsable de ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on peut faire pour tout améliorer. Et moi, quand j'ai lu ça.
Pour ensemble réparer quelque chose.
Exactement. Pour qu'ensemble tout aille mieux. Et en vrai, oui, c'est un peu compliqué. Et en fait, ce qu'elle dit dedans, elle dit notamment pour que ça existe à l'échelle de tout, au moins même nationale et tout ça, ça demanderait tellement d'argent, de moyens que jamais une certaine personne ou un certain gouvernement ne mettrait en place.
Là, tu parles à une échelle collective, en fait.
Oui, à une échelle collective, c'est ça.
Même à l'échelle individuelle, je trouve ça intéressant quand tu as dit, en fait, c'est aussi une question de choix, c'est aussi une question de vigilance, de faire tout le temps attention. Quand même, je trouve que c'est une vraie vigilance de ne pas tomber dans des mécaniques, comme tu disais, de domination, c'est un truc de vigilance, en fait.
C'est ça. Et en fait, il y a un truc que souvent, ça va être plutôt les gens qui sont anti-féministes et tout, qui vont dire « Quoi ? Mais du coup, il faut tout le temps qu'on surveille, on peut plus rien dire. Ça veut dire que quoi ? Que peut-être que des fois, ça veut dire que quand t'écris une histoire, tu fais attention à blesser personne ?» Ben oui. Ou alors que les gens que je veux blesser, ben je veux les blesser. Enfin, genre dans le sens... Si t'as envie d'écrire une histoire pour te moquer de gens, ben que ce soit conscient et que ce soit pas en mode genre j'ai fait une blague sur les femmes mais c'est pas méchant, c'est juste de l'humour. Et t'es en mode genre ok. Mais du coup, quand je faisais mes BD didactiques et que je faisais des rencontres en librairie et tout, ma prof de latin trahit. Ma prof de latin de 5e. Mais je m'attendais à ce qu'elle me trahisse parce qu'elle m'aimait déjà pas quand j'étais au collège. Mais qui me dit, mais donc avant l'art, maintenant c'est le social. Et j'étais en mode, premièrement.
Bah, elle suit ton travail quand même, elle est venue te voir.
Elle est venue me voir pour me bitcher dans ma.
Aïe. Ah, pas cool.
Mais j'étais un peu en mode, genre, Christine, t'es prof de latin, pourquoi tu viens me faire sacro-saint de l'art et tout? Enfin, c'est trop bizarre. D'habitude, c'est les vieux hommes artistes qui font de la sculpture sur bois qui disent ça. Mais genre.
Pas toi.
Mais en tout cas, non, mais je m'attendais. A été problématique. Mais du coup, c'est pas que ça prime sur l'art. J'espère que si jamais je fais un truc pas bien, qu'on vienne me le dire et que je puisse me remettre en question. Par exemple, un jour, je parle des violences sexistes à Angoulême. Je fais un post sur Facebook, c'est il y a très longtemps. Et là, on me dit, ah, t'as mis le mot hallucinant, c'est psychophobe. Et j'étais en mode, ben non, je suis pas d'accord avec ça parce que des fois, on peut faire des remarques et tu peux ne pas être d'accord. Et puis peut-être qu'à un moment, je me dirais, ah, ben en fait, cette personne avait raison. Mais là, sur le moment, je me suis dit, je prends cette critique, j'ai ma réflexion, les mots veulent dire des choses. Pour moi, je suis pas d'accord avec cette remarque-là, mais tant mieux qu'elle ait pu me le dire et tout. De l'autre côté, des fois, il y a des gens qui m'ont dit, ben on parle pas de personnes de couleur parce que c'est raciste. Et j'étais en mode, excusez-moi, j'ai vraiment chié dans la colle. Et donc après, on essaye de s'améliorer. Et j'essaye en tout cas de... Enfin, je suis pas du tout un exemple et je suis pas... je veux pas avoir l'air de dire ça comme si j'avais la science infuse. Pas du tout. Mais je trouve que c'est important de pouvoir tout le temps être questionné, de pouvoir et de se remettre en question. Et en fait, oui, je trouve ça extrêmement important de, quand j'écris quelque chose, me dire, mince, est-ce que c'est problématique? Et
oui, parce que tu penses pas l'œuvre complètement... Enfin, tu penses pas non plus l'œuvre comme une chose refermée sur elle-même, repliée sur elle-même, purement gratuite. Voilà, c'est
de toute façon, les œuvres sont...
sont inscrites dans un contexte historique, social, politique. On va pas faire comme si c'était des trucs tombés du ciel, sortis d'un imaginaire dans les cieux, quoi. Il faut arrêter aussi, en fait. Puisqu'on parle justement de ta pratique artistique, je m'interrogeais sur la manière dont tu fabriques tes bandes dessinées. Tu travailles beaucoup les dialogues, je trouve qu'ils sont très précis. Tu essaies vraiment de capter quelque chose de quotidien, d'intime dans ce que tu écris. Comment ça s'articule avec le dessin? Est-ce que c'est le dessin qui fait émerger le dialogue? Est-ce que c'est le dialogue qui fait émerger le dessin? Ça change, j'imagine, ça bouge. Comment tu penses tout ça ensemble? Comment t'articules tout ça ensemble?
Déjà, j'écris en faisant mon storyboard. Donc j'ai des notes dans mon téléphone, j'ai un carnet où j'écris des notes aussi, mais c'est plus elle devrait faire ça. Et des fois j'abandonne, des fois bon. Mais
tes notes, c'est des choses que aussi tu te nourris de ce que tu vois autour de toi. Tu vas capter une scène, tu l'écris.
Oui, ça peut être ça. Des fois c'est des idées, des fois ça peut être juste là par exemple dans mon prochain livre, à un moment je voulais qu'il y ait une discussion sur la peur des hommes. Et j'étais comme, comment l'introduire, etc. Et là, j'ai eu une discussion avec des amis sur être lesbienne, mais des fois avoir de l'attirance pour un homme, et nanana. Et en fait, après, je me suis dit, c'est ça, c'est l'exemple que je vais prendre. Par contre, sinon, mon ancienne colocataire, Sophie Bédard, extrêmement douée, une autrice incroyable, allait lire ses bandes dessinées, et elle est trop forte. Et en fait, elle, j'étais trop admirative parce que elle fait genre 14 storyboards, elle écrit un scénario à l'ordinateur, après elle fait un petit storyboard, après elle fait un plus grand storyboard, après machin. Moi, je déteste refaire. Quand mon éditrice me dit, ouais, non, là, il faudrait vraiment refaire cette page, je sais que je peux pas réagir en faisant un caprice, mais j'ai envie. Et ma règle, c'est de jamais me forcer à écrire. Mais donc vraiment, le storyboard, ça me permet de à la fois développer la scène, l'écrire, voir comment elle va être construite, construire les deux scènes, les pages en fait aussi visuellement. Moi, c'est un truc que j'adore vraiment dans l'écriture, c'est que là, par exemple, pour mon livre, j'étais en mode, ça va finir comme ça. Après, je me suis dit, ah non, ça peut pas finir comme ça parce que ça marcherait pas. Puis là, j'avais une autre idée que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Puis je me suis rendu compte que ça serait... dans l'histoire, ça serait trop cucu, ça serait trop... Et donc, je l'ai abandonné. Et là, j'avais encore une autre idée. Puis là, je me suis mis à la détester. Et là, au final, je suis arrivée à une autre idée où j'adore. Donc, je suis très contente. Mais vraiment, ça évolue. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément écrire. Et que, en fait, ton histoire t'amène un peu quelque part. Encore une fois, pas de toute façon magique ou romancée. C'est vraiment du travail d'écriture et tout. Mais c'est vraiment ma joie la plus grande d'écrire, d'inventer l'histoire. Et c'est pas en mode « Oh, mes personnages existent et ils m'amènent à un endroit où
non,
je ne savais pas. »
Non, mais c'est un
mouvement. Oui, c'est ça. C'est plus quelque chose de genre « L'histoire que je veux raconter prend un autre tournant et en fait, ça marcherait mieux et ça ferait une meilleure histoire. » Et j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ça. Désolée, j'arrête pas de le dire. Mais parce qu'en fait, c'est important aussi de faire des choses qu'on aime.
Ouais, tu parlais voilà. Du plaisir de faire les choses. Oui. Et tu disais juste avant que tu terminais ton troisième album, qui va du coup former une sorte de triptyque avec les deux premiers. On se sent comment à la fin d'un tel projet? T'étais en train de dessiner là, juste avant que la rencontre commence.
Ouais,
je sais que t'es un peu dans la hâte et voilà de la fin. Qu'est-ce qui t'habite aujourd'hui?
Donc là, j'en ai marre, mais parce que je suis très en retard. aussi, je suis trop contente parce que je pense que ça va être mon meilleur livre et peut-être que des gens le liront et diront « Ouh là là, non, c'est son pire livre ». Mais moi, je suis contente de trouver que c'est mon meilleur livre parce que ça veut dire que je suis assez alignée avec ce que j'ai envie de raconter. C'est pas des livres qui se suivent, c'est pas, mais ils fonctionnent ensemble, en tout cas pour moi. Donc ça, c'est des livres autour du groupe et de la guérison, en fait, d'une certaine façon. J'ai plein d'autres histoires dans ma tête que j'ai envie de développer. Et en même temps, je suis trop fière d'avoir fait ça. Je trouve que ça... Je suis vraiment contente de... Je suis allée là où je voulais aller. C'est un livre où elle ne sort pas de la ville. Au début, je voulais, je me suis dit non. Pour celui-ci, il faut qu'elle reste justement, que c'est quelque chose de...
Il faut que l'horizon soit en ville. L'horizon
oui,
peut être
en
ville.
Oui, c'est parce que justement, je voulais parler du... Ça parle de colère et de comment gérer ça. Et en fait, c'est pas « Oh, je sors de la ville et donc tout va mieux », mais c'est plus sortir de cette espèce de quotidien et de rythme qu'on s'impose et qui des fois nous dévore un peu pour prendre un instant de pause en fait. Donc j'en suis très contente, j'ai vraiment hâte. Et puis il sort en mi-mai là, j'ai vraiment hâte aussi qu'il appartienne à d'autres gens, enfin qu'il appartienne, ça sonne très cucu dit comme ça, mais c'est très solitaire la bande dessinée. En plus en ce moment, c'est dur de trouver du sens à faire des choses, car il se passe des choses absolument terrible. Et en fait, là, d'être toute seule avec ça, ça enlève tout le sens, ça enlève... Enfin, je sais pas. Et donc, le fait que ça existe en dehors de moi, j'ai vraiment hâte, en fait, que d'autres gens puissent se l'approprier, s'ils en ont ou si elles en ont envie, bon, bref. Et je suis un peu dans la phase de « Eh, j'en ai vraiment trop marre et j'ai envie de recommencer à avoir une vie sociale. » Là, vous me voyez, mais ça fait un mois que je vois personne, à part Denis Brognard le mardi soir. Et c'est la première fois que je suis habillée un peu comme un être humain et non pas juste de vêtements mous. Bon, ils sont quand même assez mous. Bref, mais j'ai hâte d'avoir fini. Puis j'ai surtout hâte, que des gens le lisent et me disent j'espère qu'elles ont bien aimé. Ou j'espère que pas trop de gens vont détester ce livre.
Bon, on a hâte de lire en tout cas. Merci beaucoup Myriam Mal pour cette rencontre.
Merci, désolée d'avoir parlé dans tous les sens.
C'était le but. Vous venez d'écouter Pépite, un podcast Louis Média, co-présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. Merci au Pop Women Festival pour l'enregistrement en direct et en public. Et à la semaine prochaine dans Pépite.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettres Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettres Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettresola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.